Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, des considérations aujourd'hui générales sur la répression et puis la présentation d'une nouvelle association qui s'appelle l'AADDT.
Oui. Alors, j'ai la parole, je commence. Chers amis auditeurs de notre chronique anti-répression, bonsoir. Si j'aurai, au cours de cette émission, quelques embarras de diction, ils seront dus à 4 décis d'ermitage suivis d'une décoction de noir afghan de première. Mais tranquillisez-vous. Je parlerai toujours mieux qu'un certain conseiller d'État qui, après 3 de Vinzelle au château d'Auchy, ne se voyait plus les mains. Pauvre instruction publique, qu'on sait donc avec le nouveau, ça ne s'est guère amélioré. Les amis, après une interruption de 3 vendredis successifs, nous reprenons notre émission jusque à l'établissement d'une nouvelle grille des programmes en septembre, qui fixera un autre jour, je ne sais encore lequel, pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous rappelle le but de notre émission. Il s'agit de mettre en évidence l'inanité du département de justice, police et affaires militaires, c'est-à-dire du département de la répression. Inanité parce que cette institution est inapte à résoudre les conflits de notre société. Au contraire, elle maintient les inimitiés, la haine sociale, par un cynique dosage des antagonismes, par stimulation de la dualité bien-mal qui ne convainc que des esprits attardés. La prison, avec son effrayant cortège de malheurs, aura tué au moins 3 fois ces derniers jours en Suisse romande. Au Bois Mermet, où un Zaïrois de 37 ans s'est suicidé, à Monté, où une femme de 28 ans s'est suicidée, et dans le canton du Jura, où un détenu s'est suicidé. C'est pourquoi je décerne la palme de la honte à ces gardiens de geôle, ces flics, ces juges d'instruction, authentiques ratés de notre société, qui ont eu la couardise de s'installer dans le camp de l'assiette au beurre, celui de l'immédiateté d'un confort faussement sécurisant, méprisant au besoin tout sens de l'humain, cherchant à se faire pardonner par le maniement quasi évangélique du code pénal. Qu'as-tu de plus, canaille judiciaire ? Où est ton triomphe ? L'ADPS est abolitionniste, c'est-à-dire que chacun de ses membres, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs, croit et démontre à qui veut bien l'entendre que la prison ne sert à rien et que d'autres méthodes, mais surtout une autre vision de la délinquance et, partant, de la société, est à mettre en œuvre. Mais pour les besoins urgents du moment, cette association de défense des détenus de Suisse entend simplement faire respecter les règlements que l'odieuse machine judiciaire a pourtant émis. Chers auditeurs, une bonne nouvelle vient de nous ragaillardir. Le parti Légalisons le cannabis se propage de Genève dans les cantons de Vaud, Valais, Tessin, Zurich. Il se présente, j'ai oublié, peut-être Fribourg. Il présente des candidats aux élections des 17 et 18 octobre prochains au Conseil national. Or, le ministre du département de la répression genevois, Bernard Ziegler, voudrait invalider la participation de ce groupement aux élections. Pour lui, la démocratie, oui, mais sans risque d'innovation. Étrange conception des institutions. La démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Voilà bien une preuve de l'authenticité de cet adage. Et c'est un socialiste qui nous fournit l'occasion de vous le rappeler, chers auditeurs. Si j'étais socialiste, je lui dirais « fous le camp, ordure ». Le cannabis, au même titre que d'autres drogues, telles que l'alcool et le tabac, doit passer dans le domaine de l'habituel. Il doit être légalisé. Alors que toute la jeunesse, même jusqu'à 77 ans, aille aux urnes et dans un élan de ferveur, vote pour des candidats qui pensent comme eux, sus aux interdictions du libre arbitre. Surtout vous, amis détenus, sachez que vous avez le droit de vote. Exigez de pouvoir voter et votez la liste Légalisons le cannabis. Heureusement que nous avons Radio Assidule à Lausanne et Radio Zone à Genève pour clamer tout haut ces encouragements. Nous savons, hélas, ne rien pouvoir attendre la très officielle radio romande dont l'objectivité ne consiste qu'en le signal horaire. Amis auditeurs, je m'en vais vous lire la lettre d'un prisonnier actuellement détenu à la colonie des EPO. Cette lettre est adressée à la Régie Stelet de Genève. Voici la lecture. Monsieur, suite aux multiples démarches de mon amie, Mademoiselle X, pour obtenir le courrier restant dans la boîte aux lettres 6 à 34 rue Z, et n'obtenant aucun résultat précis, je m'en remets à vous pour que le dit courrier soit envoyé dans les 10 jours à l'adresse subventionnée. Ayant déjà profité du fait que mon ami est handicapé, mère d'un enfant de moins de 8 mois et aussi de mon absence, pour la mettre à la porte, alors que vous aviez la preuve de notre recherche d'un autre logement, ceci dans les plus brefs délais, puisque l'administration et l'hospice général s'y étaient attelés, il serait déplorable que cela continue avec la séquestration de notre courrier. Sachez d'autre part qu'étant en ce moment incarcéré aux établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, certains de ces 10 courriers risquent fort d'avoir des rapports avec la justice. Soyez donc avertis que sans nouvelles de votre part dans le délai fixé plus haut, je me verrai dans l'obligation, selon les articles 25, 142, 305, 1 du Code pénal suisse, d'entamer une plainte auprès des autorités compétentes. De plus, si l'expulsion telle qu'elle a été faite pratiquement légale, elle reste néanmoins d'un immoral et d'un sadisme tellement poussé qu'elle devrait être punissable. C'est pourquoi est prochainement programmée une émission de l'ADPS à la télévision suisse romande où ne cachant ni mon nom ni mes antécédents, j'aurais à cœur de vous citer en exemple pour votre psychologie commerciale. En attendant votre réponse, veuillez recevoir, monsieur, mes salutations distinguées. Voyez comment on écrase les détenus. Vous autres qui avez des difficultés analogues, faites-m'en part. Je vous garantis que ça passera sur l'onde éthérée de Radio Acidule. Chère Nadia, nous t'exhortons, même si tu n'auras pas gain de cause, à porter plainte contre ce gardien du bois Mermet qui t'a insulté en toute impunité, en te traitant de noms que nous ne prononcerons jamais, même pas devant la racaille de nos magistrats, tant nous chérissons l'usage courtois. Un salut à toi, Viviane, qu'un juge peu scrupuleux, mais y en a-t-il un qui ne le soit pas, maintient en la prison du Bois Mermet. Par pure paresse, il ne transmet pas le dossier au parquet, prétextant un surcroît de travail. Et il vient de rentrer de vacances. Ce juge a été limogé de la capitale il y a quelques années. C'est dire ce qu'il devait valoir, quand même ses pairs s'en indignent. Reste à savoir pourquoi il est toujours en fonction. Moi, je le sais. Merci, monsieur Lebas. Le dernier chapitre d'aujourd'hui sera consacré à une association biennoise, l'Association pour l'aide et la défense des droits des toxicomanes. Thank you. l'Association pour l'aide et la défense des droits des toxicomanes, ou AADDT, est la conséquence d'une prise de conscience spontanée des toxicomanes et d'anciens toxicomanes face à l'échec de la politique à l'égard des drogues illégales et des risques que cette politique fait courir aux démocraties, aux citoyens, aux toxicomanes. L'AADDT aimerait réunir les personnes concernées par ce problème, politiciens, corps médical, police, justice, toxicomanes, et l'aborder froidement, en apportant chacun notre expérience. Nous fragmentons notre analyse de la façon suivante. Psychologie du toxicomane, cause du trafic, système actuel de répression, mensonges du système actuel, lutte et propositions. La psychologie a découvert depuis longtemps que l'homme est un paquet de dépendances et de réflexes conditionnés, motivés par le processus désir-plaisir. Cette explication est nécessaire pour mieux comprendre la toxicomanie. Le toxicomane, de par sa pratique, perturbe ce processus. Son plaisir est immédiat. Notre technologie est du XXe siècle, mais notre niveau de conscience spirituelle et notre art de vivre sont moyenâgeux. Cela crée un décalage. De plus, la répression aveugle, telle qu'elle est pratiquée actuellement, renforce ce problème plutôt que de le résoudre. Voyons les causes du trafic. Elles sont multiples. De par son prix, la drogue est le marché qui rapporte le plus d'argent. Cet argent sert les guerres, accroît les disproportions entre pays riches et pays pauvres, favorise la misère mondiale. Cet argent est, tout le monde le sait, le principal marché de la mafia, qui du reste implique nos propres élus et magistrats. Ça, c'est un ajout personnel. Je vous le dis parce que j'en détiens des preuves. Le système actuel est une tentative hybride de répression et de prise en charge qui fonctionne très mal, car il favorise le mensonge, augmente les prix, et de par la répression fabrique, en enfermant les petits trafiquants, des récidivistes potentiels. Comme le toxicomane, de par sa pratique, est amené à un cercle vicieux de mensonges, les réponses aux problèmes de la toxicomanie par notre société sont mensongères également. Que ce soit de la part des médecins, de la police, de la justice, du monde politique, le mensonge est le point commun de tous. Personne n'a de solution à ce problème et personne n'ose l'admettre. Pour lutter efficacement contre le problème de la drogue, il faut s'organiser, unir nos forces, ne pas avoir peur de se remettre en question, ne pas avoir peur d'avouer s'être trompé. La proposition de l'AADDT est la suivante. Dialogue franc entre personnes concernées, hommes politiques, médecins, justice, police, toxicomanes, et neutralisation efficace et humaine, surtout humaine, du toxicomane en utilisant son expérience et en respectant sa liberté d'homme. Je passerai à l'historique de l'association. De par l'expérience que nous avons de la toxicomanie et de la répression qui en découle, nous avons décidé de fonder cette association pour l'aide et la défense des droits des toxicomanes afin de dénoncer les abus qui nous font craindre que notre société démocratique et notre liberté d'homme sont en danger. Partant du même principe que les alcooliques anonymes, nous estimons que les toxicomanes et les anciens toxicomanes sont le mieux placés pour aider et faire part de leur expérience. De plus, nous pensons que les structures actuelles de répression et de prise en charge ne correspondent pas aux besoins réels posés par les problèmes de la toxicomanie dans notre société. De plus, les abus policiers et les erreurs policières doivent être dénoncés. Notre démarche a été la suivante. Nous avons écrit à la Cour suprême du canton de Berne pour les aviser des problèmes de détention et des conséquences qu'entraîne la détention abusive. Nous en avons également averti Mme Kopp. Nous avons fait la même démarche auprès de Benjamin Hofstetter, directeur de la police du canton de Berne. Nous avons pris contact avec les centres actuellement en activité dans nos régions, à Bienne, le Centre Plus, à Delémont, le Centre d'accueil et de prévention, à Saint-Imier, Espace Noir, Tavannes, pour le centre de contact, et à Bienne, l'association de parents. Nous avons ouvert le dialogue auprès des médecins de la vallée de Tavannes et environ, afin que ceux-ci rectifient leur position envers le problème de la toxicomanie et des soins nécessaires à un sevrage. Nous avons écrit un article consacré au problème de la méthadone pour le journal Médecin. Nous avons contacté deux spécialistes hollandais, M. Durieux et les docteurs Sengers de l'Université de Rotterdam, ainsi que le docteur Piet de la faculté juridique de Bâle. Nous avons cherché des avocats susceptibles de nous aider et de nous défendre. Nous visitons, dans la mesure de nos possibilités, les personnes incarcérées et récoltons les témoignages des gens ayant eu affaire à la justice et qui estiment avoir été victimes d'abus. Nous assistons, toujours dans la mesure de nos possibilités, au jugement rendu pour trafic de stupéfiants. Voici maintenant une lettre ouverte au médecin qui m'a beaucoup troublé, en même temps que séduit par sa concision et sa pertinence. Nous voulons vous rendre attentif à l'approche du problème de la toxicomanie et tout particulièrement vous, le corps médical, qui voulez éviter ce problème. Cela, non pas seulement pour le toxicomane, mais dans l'intérêt général. Nous sommes étonnés par l'attitude de rejet des médecins. De par sa formation, le médecin, mieux que quiconque, doit être capable de comprendre et de compenser les distorsions culturelles, politiques et personnelles qui peuvent influencer son objectivité. Lorsque l'on sait que la vie d'un homme est une longue histoire de dépendance et de réflexes conditionnés, cela devrait engendrer la tolérance à l'égard des pathologies liées à ces automatismes. L'argument, toujours évoqué par les médecins pour refuser de soigner un toxicomane, est qu'ils sont déjà assez de gens malades qui ne sont pas responsables de leur maladie et que le toxicomane, lui, choisit son mal. C'est une analyse superficielle et doublement fausse. La majorité des maladies et accidents sont dus à une erreur directe du patient. Indigestion, cancer du fumeur, maladies vénériennes, cirrhose, etc. Sans pour autant que le médecin refuse de soigner de tels patients. Pour la société, il est aussi dangereux de laisser un toxicomane sans soins que de ne pas mettre en quarantaine une personne contagieuse. Ce qui désarçonne le corps médical, c'est la nouvelle forme de pathologie que la toxicomanie engendre, avec ses facteurs divers, physiques, sociaux, politique, psychique. C'est une maladie interdisciplinaire. L'échec de la psychiatrie à résoudre ce problème en est une preuve flagrante. Le toxicomane du XXe siècle ne rentre plus dans le schéma du toxicomane du début du siècle et l'explication n'est plus dans un Oedipe mal vécu ou une émotivité pathologique. C'est un problème de civilisation. Nous sommes un exemple de cette nouvelle forme de toxicomanie. Les circonstances et la chronologie de nos expériences avec les drogues nous permettent une certaine objectivité. Nous avons commencé à prendre des drogues à la suite de la nouvelle façon de penser des années 68. À la suite de ça, nous avons expérimenté les drogues dites dures et nous avons fait le cursus jusqu'à leur dépendance. Et de preneurs, nous sommes devenus pris. Cette descente jusqu'aux racines du plaisir a été dure, mais enrichissante. Et c'est pour essayer de faire profiter de notre expérience que nous nous adressons à vous, les médecins. J'aimerais que l'on médite sur le problème de la drogue dans notre société et que vous, les médecins, révisiez vos jugements parfois hâtifs. Notre culture occidentale a tendance à porter un jugement au premier degré et considère la drogue comme étant le plaisir du diable et l'alcool le sang du Christ, réflexe qui fausse l'objectivité à l'égard de ce problème. Amis auditeurs, qui êtes concernés par les drogues fines, ça c'est moi qui parle, les drogues fines, mais seulement si vous en êtes esclaves, n'hésitez pas à entrer en contact avec l'AADDT par mon truchement. Je vous donne mon adresse, Max ADPS, boîte postale 129, 1000, Lausanne 17. La semaine prochaine, nous aurons un invité d'une soixantaine d'années qui a connu la prison en Amérique centrale pour d'aimables affaires de cannabis. Voyez, il est ubiquiste, ce chanvre filandreux. Vive le chanvre, sauveur de l'agriculture de montagne. Je le proclame, aimez le chanvre comme tout don de la nature, comme tout don de Dieu. Le pénaliser, c'est faire offense à Dieu. Memento, toi, le darbiste, le bas. N'oubliez pas, amis détenus et de partout, Voter légalisons le cannabis les 17 et 18 octobre 1987. Vertes sont ces cellules. Alors cultivez, subvertissez, anoblissez.
Avant d'écouter un petit peu de musique pour rester dans l'ambiance que Max a créée, je voudrais peut-être que vous interveniez, François Fleurier, puisque avant de parler du sujet qui vous amène, vous êtes chercheur en ethnopsychiatrie et je pense que vous avez quand même un point de vue sur ce que Max vient de dire, c'est-à-dire sur la création de l'AADDT et sur peut-être cette lettre ouverte aux médecins.
Oui, je trouve intéressant de se poser des questions, pas seulement peut-être... la vision de notre culture par rapport aux drogues, mais peut-être les autres cultures, comment elles travaillent et elles vivent avec ces drogues. Et je crois qu'on aurait tout intérêt à étudier d'autres pays qui utilisent le chanvre en Inde ou d'autres, et essayer de comprendre les différences qu'il y a entre une toxicomanie, je dirais, culturelle, libre, ouverte, et notre problème de toxicomanie en Suisse.
Qu'est-ce que ça peut permettre de faire comprendre, par exemple?
Je ne suis pas spécialisé dans cette partie-là, mais je peux en tout cas dire que la vente libre au Bengale, par exemple, de l'herbe, permet à tout consommateur d'aller... Ce sont des magasins d'État, permet à tout consommateur d'aller prendre ses 10 grammes d'herbe par jour, s'il en a envie, et de suivre un processus qui est le sien.
Ça, ce n'est plus un obstacle, ce n'est pas une obsession non plus, ce n'est pas une maladie non plus. Et ça a un effet sur la personnalité des gens?
Automatiquement, puisque c'est quand même un stimulant et il faut toujours le penser comme ça.
Oui, une drogue est un modificateur de la conscience. Mais lorsque la drogue est consommée socialement, c'est-à-dire si elle est un truchement pour parvenir à une meilleure entente entre les gens, comme toutes les sociétés qui utilisent ici la drogue, c'est le vin, l'alcool. Au Yémen, c'est le khat. Et le khat est un acte social. Fumer le khat est un acte social. Ailleurs, ce sera le chanvre. Ailleurs, l'opium. Mais il y a danger et il y a abus dès le moment où intervient une prohibition. Souvenez-vous, nous avons un exemple édifiant, c'est la prohibition 1920-1930 sur l'alcool aux États-Unis. Jamais il y a eu autant de crimes, jamais il y a eu autant de morts, de malades et de gens qui sont morts, non seulement sous les balles des flics et des mafieux, mais aussi ceux qui sont morts pour avoir consommé de l'alcool frelaté. Alors, pourquoi toujours maintenir cette prohibition? Moi, je le sais. C'est parce que les gens qui sont les détenteurs du pouvoir, d'une part, ne peuvent pas souffrir qu'on pense différemment et ne peuvent pas souffrir une modification de la conscience qui soit à même d'entraîner une autre vision du monde. Et ils ont aussi intérêt à culpabiliser les gens pour pouvoir mieux les réprimer, car eux-mêmes ont intérêt et font partie de la mafia. Nous avons des preuves ici. Je choisirai un moment plus opportun, et du reste maintenant nous n'avons pas le temps de le faire, mais pour pouvoir parler de preuves, nous établirons ici, nous transformons ce studio en tribunal. J'ai suffisamment de papiers pour jeter le discrédit sur tous ceux qui nous régissent et nous gouvernent.
Ce qui est quand même intéressant à dire, c'est que souvent, ces stimulants, dans beaucoup de sociétés, sont utilisés dans des actes rituels. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, il y a une dégradation à la base de notre toxicomanie occidentale, peut-être parce qu'on n'a pas de rituel ou qu'on a une culture si peu claire qu'on n'a pas un acte religieux dans cette prise de stimulation. Et je crois qu'on aurait intérêt vraiment à étudier profondément qu'est-ce que ça veut dire dans certaines sociétés qui n'ont pas été trop touchées, qui ne sont pas dans des situations inculturelles, bien que c'est très difficile actuellement.
C'est vrai, nous n'avons plus rien de sacré dans nos civilisations.
Bien, merci Max. On reviendra dans quelques minutes sur les problèmes culturels et les différences culturelles qui amènent parfois certains problèmes. On s'écoute tout d'abord un tout petit disque.
We'll be right back. sitting in the crown. Your love talks to me so loud. Girl, do I do?
Merci Francis Lalanne. Alors Max, on se retrouve, hein, bonsoir, secrétaire bonsoir. De l'ADPS, l'Association Suisse de Défense des Prisonniers de Suisse. Et tu vas nous parler de plusieurs choses aujourd'hui, mais tout d'abord, il me semblait que la semaine dernière, tu nous avais annoncé un invité. Alors, je ne le vois pas. Qu'en est-il ?
Oui, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Ce n'est que partie remise, il viendra la semaine prochaine. Et c'est un homme extrêmement agréable. Il a 60 ans, c'est un grand fumeur de haschich. Il a fait de la prison en Amérique centrale. Il estime que toutes les drogues doivent être légalisées, libérées. Et il y aura beaucoup à apprendre de lui. Alors j'augure beaucoup de vendredi prochain.
On se réjouit en effet. C'est quand même assez singulier d'avoir des personnes comme ça, à 60 ans, qui fument régulièrement le cannabis.
Ah oui.
Et ensuite, enfin, tout d'abord, on va parler d'un sujet un peu plus grave, c'est le suicide d'une détenue à Monté.
Oui, à Monté, ça s'est passé il y a une huitaine de jours, 8-10 jours. Quelques amis à Monté qui fumaient et trafiquaient du cannabis ont été défaits par la répression. Et Myriam a été à ce point maltraitée par les flics qu'elle a préféré se donner la mort. Et l'odieux et ordurier poubelliste valaisan, donc le nouvelliste du Rhône, a dit qu'il s'agissait que la drogue avait tué et qu'il s'agissait de règlement de compte. Non, il n'en est rien. Myriam a été violentée, pour ne pas dire violée, par les flics et elle s'est donné la mort. Ceci montre que, à la veille, on peut dire, d'une légalisation, pour moi, la veille constitue quelques mois, peut-être même quelques années, mais enfin, le cannabis va être libéralisé, va devoir être légalisé. C'est une suite logique, c'est la logique de l'histoire des sociétés. Et à la suite du cannabis, devront suivre les autres drogues, bien entendu. Myriam on lui a imputé le trafic de 14 kilos de cannabis. Qu'est-ce que c'est que 14 kilos de cannabis? Cette herbe de Dieu, cette herbe vénérable. J'encourage tout le monde à en consommer. Violant ici l'article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants qui ordonne en outre de ne pas faire de propagande pour les drogues illégales. Eh bien moi j'en fais parce que il est illégal d'interdire ce genre de produit. C'est un produit naturel, c'est un produit qui n'a jamais causé de mort, qui n'a jamais causé
de dépendance physique.
Dépendance physique, et on peut tout au plus regretter certains excès, mais comme tout excès, c'est déplorable. Tu useras de tout, mais n'abuseras de rien. C'est la logique même. On peut se tuer en mangeant du sucre, en mangeant de la viande, et Dieu sait si nos gros cochons d'édiles qui bouffent de la bidoche à longueur d'année, s'ils ne se sont pas désintoxiqués. Et puis il y a les intoxiqués du travail, parce qu'alors la pire drogue qui existe, c'est bien le travail. Mais enfin, bon, nous pourrions gloser pas mal là-dessus et nous aurons encore l'occasion d'en parler, bien sûr.
J'aimerais quand même te poser une question. 14 kilos, c'est quand même pas une paille, c'est pas pour sa consommation personnelle. Alors, comment est-ce que... Enfin, je voudrais pas t'attaquer, mais je pense que tu peux essayer de répondre à ça. C'est manifestement, elle devait faire quand même de l'argent avec ça. C'est pas vraiment le petit trafiquant ou le petit revendeur qui revend son shit juste pour pouvoir fumer pour lui.
Bien, alors, je réponds à cette question, Marc. Bon, tu ne m'attaques pas. De toute façon, je suis inattaquable. Mais, écoute, le 14 kilos, ce n'est pas beaucoup. Et on ne fait pas de l'argent avec 14 kilos de cannabis. Hein. C'est un pourboire, tout au plus. Je n'ai jamais vu quelqu'un vivre sur un train de vie équivalent à celui de nos conseillers d'État ou du procureur du canton de Vaud qui se tape allègrement 16 000 francs par mois. Hein. Les conseillers d'État, 20 000. Et ces salopards demandent à être augmentés. Hein. Alors que les gens qui sont au bas de l'échelle, eux, ne seront certainement pas augmentés, vous savez très bien. Alors moi, j'estime que 14 kilos de cannabis, c'est un pourboire.
Et puis, bon, on parle du cannabis, mais tu dis aussi qu'il faudrait libéraliser toutes les drogues et aussi les drogues dures. On sait que le cannabis n'a pas de danger effectif, en tout cas pas plus de danger que l'alcool, pas de dépendance physique, mais il y a quand même d'autres drogues qui sont nettement plus dangereuses et qui tuent celles-là.
Oui, elles tuent à condition qu'on exagère. Il est évident qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège d'une consommation toujours plus exigeante et plus tyrannique. L'affaire est la suivante, c'est que la personne qui sombre dans la démesure n'est pas malade d'avoir trop consommé de drogue, elle est malade surtout de vouloir en consommer pour autre chose qu'un agréable plaisir. C'est une étape qui n'en finit pas, et c'est dans la tête que ça se passe avant la consommation. C'est un mal de vivre, c'est autre chose qui produit cette consommation. Ce n'est pas la drogue, toute drogue tue. C'est une question de dose. Donc, les médicaments tuent aussi. Les médicaments tuent aussi, et sans pour autant qu'on cesse de les prescrire.
Mais alors, est-ce que le fait de libéraliser une drogue, et en particulier une drogue dure, est-ce que tu penses que ça va modifier le comportement des gens qui les consomment, et donc éviter justement que les gens en abusent ?
Non, les gens qui en consomment en consommeront toujours, et ils doivent en consommer s'ils estiment devoir en consommer, parce que jusqu'à maintenant, c'est le libre arbitre, je crois, qui dicte la philosophie politique de nos pays, qui devrait en tout cas. On a largement outrepassé et on a largement hypothéqué ce libre arbitre. Il n'existe plus vraiment aujourd'hui, et nous sommes vraiment des esclaves. Et nous déléguons, hélas, ce libre arbitre, cet attribut de la liberté, nous le déléguons à une bande d'imbéciles qui n'est pas à même de répondre des autres, parce que on ne peut pas remplacer, on ne peut pas représenter quelqu'un. On peut tout au plus ne représenter que sa propre personne. Et c'est bien ce qu'il y a de déplorable, c'est que les gens renoncent à se représenter eux-mêmes et délèguent leur pouvoir. Voilà qui est extrêmement dangereux. Bien sûr, il y a des élections en perspective. Hein, et vous allez me dire que nous nous présentons, donc nous entendons nous substituer et déresponsabiliser d'autres gens à notre profit. Mais cette fois, nous disons, nous nous présentons pas dans une intention électoraliste, dans une intention de prendre le pouvoir, nous désirons apporter plus de liberté aux gens. Et précisément, en matière de drogue, en matière d'un produit qui doit être à la portée de tous, parce que chacun est responsable dès lors qu'il a atteint sa majorité.
Est-ce que le but premier de ces parties-là qui éclosent dans les cantons romands et je pense aussi ailleurs en Suisse pour la légalisation du cannabis, est-ce que tu penses que raisonnablement les candidats de ces partis cherchent à être élus, ou bien est-ce que c'est surtout pour amener le débat sur la place publique ?
Exactement, c'est pour amener le débat sur la place publique, parce que nous ne nous faisons pas d'illusions. Ce sont des candidatures de combat, c'est-à-dire que nous nous présentons, il faut que nous ayons une liste qui comporte des noms, que ces noms correspondent à des personnes naturellement engagées, mais ces personnes savent très bien qu'elles ne siégeront pas dans l'hémicycle. Mais en revanche, c'est un devoir que d'apporter une fois ce débat sur la place publique, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde refusait d'entamer un dialogue de fond. Et ça sera l'occasion de sortir de cette clandestinité de la pensée.
Et est-ce que des thèmes développés par ces nouveaux partis sont susceptibles d'être repris, à ton avis, par d'autres partis ?
Oui, alors nous savons très bien que, bon, supposons que un des candidats passe, par exemple le candidat genevois, dès le moment où il fera une proposition aux chambres, par exemple, s'il est soutenu par 4 autres personnes, eh bien, d'autres partis s'empresseront de récupérer cet objet, puisque naturellement, ils se rendent bien compte, les gens, que le sens de l'histoire est unique.
comme ça a été le cas, par exemple, pour les partis écologistes qui, les premières fois où ils se sont présentés à des élections, n'ont pas obtenu de siège, mais petit à petit, leurs thèmes ont été récupérés par d'autres partis. Et maintenant, il n'y a pas un seul parti en Suisse qui n'ait pas dans son programme des thèmes, des préoccupations écologistes.
Exactement. Et du reste, les radicaux zurichois, du moins une partie d'entre eux, probablement la jeunesse du parti, avaient, il y a quelque temps, proposé cette légalisation du cannabis. Mais attention, ils l'ont proposé pas pour des motifs profondément philosophiques, pas pour des besoins de la personne, mais uniquement par pur opportunisme, parce qu'il y a tellement de gens à Zurich qui fument. Il y a peut-être 15% de la population qui fume, régulièrement ou occasionnellement. Alors, c'est une possibilité de récupérer...
Un électorat jeune.
Mais bien sûr, parce que les radicaux sont des affairistes, des gens qui ne se préoccupent pas véritablement des besoins philosophiques des gens. Ils s'en moquaient perdument. Pour eux, s'il y a moyen de faire de l'argent, s'il y a moyen de récupérer des voix, eh bien, c'est tout ça de prix.
Alors, plus concrètement, je crois que tu t'occupes du parti valaisan pour la libéralisation du cannabis, pardon.
Exactement.
Et que je crois que ce parti fait quelques progrès, que la liste va bientôt être déposée.
Oui, exactement. Donc, nous prévoyons pouvoir déposer 5 listes dans 5 cantons, Romans et le Tessin. Donc, ça nous ferait Genève, qui est déjà, où la liste a déjà été déposée. Ça nous ferait le canton de Vaud, où elle a déjà été déposée. Le Valais, où elle va l'être incessamment. De même que le Tessin et probablement Fribourg. Je dis bien probablement parce que nous n'avons pas encore de nouvelles du dépôt de la liste.
Quant à la Suisse alémanique
Alors la Suisse alémanique, elle n'a malheureusement pas été contactée parce que tout ça a été décidé très tardivement. Et nous avons décidé de nous concentrer pour l'instant sur la Suisse romande parce que nous ne disposions pas assez de personnel, d'amis, pour pouvoir aller jusqu'en Suisse allemande.
Très bien, Max. Je te remercie. Je crois qu'on en a terminé pour ce soir.
Ben oui. Je dirais, encourageons l'élection des candidats de légalisant le cannabis aux prochaines élections fédérales des 17-18 octobre en votant ici dans le canton de Vaud pour Maurice Jacquard et Jacques-Yves Muller dans ce canton.
Très bien, et on se retrouve la semaine prochaine avec ton invité, un fumeur de 60 ans, et on reparlera boulettes et fumettes, donc la semaine prochaine.
D'accord, au revoir les gars.
Dès que je la sors de son sommeil, cette boîte à musique ramène à coup sûr vers le soleil d'un séjour idyllique. Oh, je l'ai reçu en Italie avec en surplus une nostalgie dont je guéris pas. Il était doux et ses yeux noirs parlaient d'amour, l'amour toujours. Et c'était fou de le croire. Un dit, te rappelles-tu? Un dit, toi que deviens-tu? Il m'emmenait danser souvent sur cette mélodie. Dans sa langue, les mots semblaient fervents, teintés de magie.
Bella, ho il cuore in gola per farti questa promessa senza parole. Nella mia mente, nei miei sogni, sempre ci sarà.
Au fond de mon cœur, y'a de l'Italie, sacré Italie, dont je guéris pas. Il était doux, et ses yeux noirs parlaient d'amour, l'amour toujours. Et c'était fou de le croire. Il était doux, parler d'amour, l'amour toujours. Et c'était fou de le croire. En toi, te rappelles-tu?